Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Vous êtes dans Bien fait pour vous, l'émission Feel Good qui rend votre quotidien plus simple. C'est tous les jours de la semaine jusqu'à midi. Et aujourd'hui Mélanie, à quoi va-t-on s'intéresser ?
Ce matin, c'est surtout notre jardin, notre terrasse, notre balcon que l'on va rendre encore plus beau. Et ce, même à cette saison, en automne. Et oui, on va même vous expliquer comment préparer la végétation qui vous entoure à l'hiver. Car en fait, même si la nature est moins luxuriante, on peut jardiner à toutes les saisons. C'est ce qu'on va voir avec notre invité. Nous recevrons aujourd'hui Philippe Collignon, journaliste et professeur de botanique. Il va nous expliquer ce qu'il y a justement à faire à cette période, comment protéger nos plantes ou encore entretenir notre potager. Et puis, il nous donnera aussi ses astuces pour jardiner zéro déchet, car il n'y a pas que le compost pour être dans ce mouvement-là.
Et ensuite, à 11h45, ce sera comme chaque jour, le quart d'heure des bienfaiteurs. Le vendredi, d'ailleurs, on a souvent le même duo, c'est-à-dire oui. Gavins Clément-Terruiz et Perla Servan-Schreiber. Alors, Gavins, lui, va nous proposer quelques escapades œnologiques ce matin. Il aura pour nous des idées insolites, hein, culturelles ou même sportives à travers les vignes. De quoi bien vous inspirer. Et puis avec Perla, ce sera gourmand et joyeux comme tous les vendredis. Et aujourd'hui, sur la table, elle nous propose un velouté de brocoli agrémenté de pommes Granny Smith. Bon, à mon avis, il y aura une pointe d'acidité là-dedans, comme on les aime. Ce sera dans moins d'une heure. Bien fait pour vous, c'est parti.
Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1, ici Julia et moi, on prend soin de vous chaque matin. La question que l'on se pose aujourd'hui, la voici. Peut-on, doit-on laisser le jardinage au placard en hiver? On va voir déjà ce qu'en pense notre cher Clément Lanoux. Vous avez la main verte, vous? Bonjour.
Alors,
Clément.
Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, c'est le pire des sujets pour moi, mais je vais m'y intéresser en grand professionnel. Effectivement, on va vous apprendre à préparer votre jardin et votre balcon pour l'hiver. Comment avoir la main bleue, hein, parce qu'à moins 5 degrés, je n'appelle pas ça la main verte, mais bon. Donc, comme j'y connais rien, je me suis dit, je vais me mettre à la place d'une plante. Comment moi je me préparais à l'hiver? Alors déjà, bonne question, si j'étais une plante, je serais quelle plante? Posez-vous la question, même les auditeurs. Julia, vous seriez quelle plante?
Moi je serais une jonquille.
Ah, je suis pas sûr. Julia, j'aurais dit un tournesol. C'est dès la moindre occasion de tourner vers le soleil. Voilà. on bosse pas mardi, allez, encore, directement. Mélanie, j'hésitais. Mélanie, vous seriez quelle plante, vous?
Moi, un truc un peu rustique, quoi. Je sais pas, un plant de potiron.
Moi j'hésitais entre le mimosa, hein, flamboyant, qui rayonne gentil. Et qui sent bon comme un tableau de Cézanne, ou le plant de tomate, qui est quand même une des plantes qui boit le plus.
Donc, voilà. Ça, c'est méchant.
Alors déjà, je ne serais pas une plante en pot, parce qu'il paraît que les plantes en pot, elles grandissent, mais elles ne grossissent pas forcément. Donc ça, ce n'est pas bon pour moi. Les patrons passent, j'ai envie de dire le boulot. Moi, c'est le boulot. Je pense que comme tout le monde, on a envie d'être peut-être un basilic. Ça sent bon, un petit balcon, ça suffit. On me trouve toujours à proximité d'une pizza. C'est envisageable. Non, on a envie d'être une rose, en vrai. En vrai, j'aimerais bien être une rose, symbole de l'amour, mais un peu piquant si on le prend mal. Allez, je vais partir sur la rose. Donc, d'accord. Si j'étais une rose, c'est comme si j'étais moi-même d'ailleurs. Comment je me préparer à l'hiver. Première chose que j'adore faire, c'est ouvrir les fenêtres et prendre l'air. Là, c'est la même chose apparemment. Il paraît qu'il faut aérer les sols. On y reviendra tout à l'heure. Deuxième chose, quand il fait froid, qu'est-ce qu'on met? Une cagoule, voilà. Donc, il faut faire la même chose sur les plantes. Il paraît que sur les roses, il faut mettre, alors on appelle ça un sac en tissu, on appelle ça le voile hivernage, mais je ne voulais pas rentrer dans un débat pour ou contre le voile chez les plantes, ça prendrait trop de temps. Après, c'est de l'engrais pour les plantes, de l'engrais, il faut les engraisser. Ouais. Nous, c'est pareil, un tartiflette, raclette, finalement, on se comporte un peu de la même façon.
Ouais,
j'alternerai les séries et le dodo, pareil, il paraît que la terre a besoin de repos. Et pour le bien-être, évidemment, qu'est-ce qu'on fait nous, si vous n'êtes pas forcément en couple d'ailleurs, il faut enlever toutes les relations toxiques. Hein. C'est mauvaises herbes. C'est-à-dire que voilà, sur Instagram, s'il y a des gens que vous n'aimez pas, qui vous font du mal, vous ne les suivez plus. Voilà, vous bloquez, vous faites ce grand ménage. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait l'hiver qu'on ne fait pas forcément bien l'été quand on rentre chez soi? On s'essuie longuement les pieds sur le paillasson et il paraît que c'est pareil pour les plantes, il faut faire un petit socle de paille, du paillage justement, pour que les plantes reprennent. Donc finalement, on n'est pas si différent et je terminerai avec une petite citation que je tiens de ma coiffeuse qui m'a dit, tu sais Clément, les plantes c'est comme les relations Tinder, il y a celles qui vont survivre et puis il y a celles qui passeront pas l'hiver.
Oh, c'est une belle citation, merci beaucoup.
Il est inspiré ce matin.
Merci Clément Lanoux pour cette délicate entrée en matière. On va maintenant écouter notre expert, le vrai, l'unique, Philippe Collignon. Bonjour.
Bonjour Julia, bonjour Mélanie, bonjour Clément.
Bonjour.
Vous
Bravo.
Êtes merci. Journaliste, vous avez également été professeur de botanique et de biologie végétale et je cite l'un de vos derniers bouquins « Je jardine zéro déchet » aux éditions Pour les Nuls. D'ailleurs, on y reviendra au zéro déchet, mais avant ça, moi je dois vous avouer, j'ai pas compris en fait quand on m'a dit « on va faire une émission sur le jardinage mais à cette saison, quand même on est mi-octobre, c'est pas un truc de printemps, sérieux le jardinage ?»
Le jardinage, c'est l'automne. Parce que les gens plantent au printemps, on plante des petites fleurs, etc. Mais le jardinage, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est les plantations, c'est à partir de mi-octobre, mi-novembre à peu près. Pourquoi ? Parce que déjà, on trouve plus de choses à planter, de la racine nue, qui coûte moins cher que du contenant et qui est beaucoup plus écologique pour la planète que d'avoir des pots en plastique. C'est maintenant que l'on plante. Pourquoi on plante maintenant ? Parce que la plante sera plus solide l'année suivante. Elle résistera mieux à la sécheresse de juillet. Enfin, de juillet, les sécheresses, il y en a plusieurs. Donc, à partir du mois d'avril. Bref, une plante sera plus solide, plus costaud.
D'accord. Donc là, il y a du boulot, on a compris. Il y a de quoi mettre les mains dans la terre en automne. Mais est-ce qu'on peut avoir un joli jardin à regarder ou un joli balcon à regarder ? Est-ce qu'il y a des fleurs à l'automne, en hiver, comme ça ? Est-ce qu'on peut avoir un très beau jardin d'hiver ?
La queen, la reine des fleurs sur nos balcons et dans nos jardins, c'est l'aster. On le voit en ce moment. L'aster, ça ressemble à une petite marguerite de toutes les couleurs. Vous avez du bleu, du blanc, du rose, du rouge. Ça mesure à peu près 2-3 cm de diamètre. Il y a du petit, du nain, du grand. Et ça fleurit jusqu'au cœur de l'hiver. Ça, c'est la reine des fleurs. Il y a le dahlia, il y a les chrysanthèmes, parce que les chrysanthèmes aujourd'hui, ça ne ressemble plus aux chrysanthèmes de nos tombes. Donc, elles sont beaucoup plus festives et beaucoup plus joyeuses. Bref, il y a de quoi faire fleurir un balcon, un jardin.
Alors, vous étiez venu nous voir au printemps dernier. On avait pas mal parlé de potager. Mais lui, alors pour le coup, le potager, il n'y a rien à en tirer l'hiver, non ?
Il y a plein de choses. Il y a le céleri, le céleri rave, le chou, le rutabaga, la mâche, le topinambour. Il y a beaucoup de choses à cultiver dans son jardin, à récolter dans son jardin.
C'est pas ce qu'on appelle les légumes oubliés, là ?
Les légumes oubliés, mais en tout cas, aujourd'hui, ils valent très très cher chez nos amis gastronomes, dans les restaurants étoilés. On les sert et ils coûtent une fortune. Donc, et en plus, ils ont un très bon goût. Ils ont une mauvaise réputation, évidemment, Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, ils reviennent en force. Goût d'artichaut, goût de pommes de terre. Donc, c'est vraiment très bien. Beaucoup de légumes aujourd'hui oubliés. Pour l'hiver.
Ça doit être quand même moins de boulot le potager. Alors je fais comme si je ne savais pas, je le sais, il y a quand même moins de boulot. En tout cas, il y a moins d'arrosage en automne au potager par exemple. On est d'accord, pour le jardinier, c'est un peu moins fatigant à cette saison.
Effectivement, pour le potager, moins d'arrosage, mais il faut quand même nettoyer, il faut quand même tondre. Alors, si on étend un peu au-delà du potager, il faut regarder les arbres qui sont malades, préparer la taille, faire des tailles en verre. Mais également pour un balcon, il faut arroser. Surtout en ce moment, il pleut moins, et bien les plantes se dessèchent sur le balcon. Il ne faut pas oublier la sécheresse hivernale, il y en a une. Lorsqu'il ne pleut pas, il faut arroser.
Mais dites-moi, Philippe, pour les débutantes comme moi, c'est quand même peut-être pas la meilleure période pour se lancer quand même. C'est moins gratifiant, là, si je commence à planter des trucs et que je vois pas grand-chose pousser, je dois attendre un bon bout de temps.
Je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment essentiel de le faire maintenant. Vous parliez de rosiers, Clément. Oui. C'est le moment de planter ces rosiers. Un rosier en pot, ça coûte 30-40 euros. Un rosier en racine nue, ça coûte 12 à 18 euros. Donc, voyez la différence.
Je sais pas ce que ça veut dire racine nue.
Racine nue, c'est-à-dire qu'il y a pas de terre. La racine est nue, on l'habille, c'est-à-dire qu'on la déshabille. En fait, voilà, c'est à l'inverse de ce qu'on peut penser en termes de l'être humain. En tout cas, on prépare ses racines, on les praline, on met un peu de terre, un peu d'eau, et on les plante. Et ça coûte moins cher et vous avez plus de profondeur dans la gamme, c'est-à-dire plus de choix dans les variétés.
Et c'est maintenant qu'on va le faire, donc c'est important de le dire. D'ailleurs, on se doute bien qu'en automne-hiver, on va quand même pas avoir, vous avez parlé de quelques fleurs là tout à l'heure, qui étaient dans des tons bleutés, mais ça va être plutôt quoi ? Des tons roses, jaunes, rouges, ça on peut le voir dans un jardin d'hiver, d'automne, ces couleurs-là ? Parce qu'on pense aux fleurs, mais il y a aussi tout ce qui est buissonnant, les
Exactement.
Petits arbustes.
Mais dans les fleurs, il y a aussi les dahlias. On les a oubliés, c'est le grand comeback des dahlias. Les dahlias reviennent en force. Elles ne ressemblent plus d'ailleurs à des dahlias, comme les chrysanthèmes ne ressemblent plus à des chrysanthèmes. Vous avez des dahlias à feuilles noires, avec un cœur jaune, vraiment extraordinaires.
Mais ça, c'est fleuri maintenant ?
Ça fleurit maintenant. Jusqu'au cœur de l'hiver, vous avez les anémones du Japon. C'est délicat, c'est mignon, c'est très résistant, c'est très rustique, c'est vivace, ça fait des fleurs blanches, des fleurs roses. Vous avez des rosiers qui continuent à fleurir, les rosiers remontants, ils fleurissent jusqu'au cœur de l'hiver. Vous avez des pensées, vous avez les bruyères, vous avez les premières élébores qu'on appelle les roses de Noël qui commencent à fleurir. Il y a plein de choses qui se passent au jardin.
Bon, il y a plein de couleurs, on l'a compris. Hein. Vous restez avec nous, Philippe Collignon, bien fait pour vous. Tente de vous aider ce matin à vous confectionner un beau jardin d'automne, d'hiver et même une petite terrasse, un petit balcon. C'est jouable aussi et très agréable. On a des tas de conseils pour vous à venir, alors restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. On s'intéresse au jardinage en automne-hiver ce matin. Et pour y parvenir, on a fait appel à un spécialiste en la matière, Philippe Collignon, journaliste. Vous avez été professeur de botanique et de biologie végétale. Alors Philippe, si j'espère avoir un beau jardin cet hiver, j'imagine que si je me réveille maintenant, c'est peut-être un peu tard pour le jardin en entier. Ces fleurs, ces plantes qui résistent au gel par exemple, il fallait peut-être aussi les planter au printemps, non ? Ou je peux encore planter maintenant ? La totalité de mon jardin, vraiment ?
Oui, tout maintenant.
C'est la meilleure saison, il vous a dit
vous
presque.
Vous savez quoi ? Les bulbes de printemps. Vous vouliez être une jonquille. Ben, oui. La jonquille, c'est maintenant. Les tulipes, les narcisses, les muscaries, c'est maintenant les bulbeuses de printemps.
J'ai une question sur les tulipes, ça me vient maintenant. Je les avais plantées à l'automne dernier et elles n'ont pas repoussé ce printemps. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Plusieurs choses. La première, c'est peut-être des rongeurs qui sont venus les boulotter.
Ah oui, il y a des souris là-bas.
Voilà,
ah oui,
donc les petits surmulots, les mulots viennent manger.
Parce qu'on m'avait dit ça repousse, mais moi ça n'a pas repoussé.
Ça repousse,
j'ai eu de la tige, mais pas de fleurs.
Alors le problème, c'est que le bulbe s'enfonce d'année après année. Bon, au bout d'un an, non, mais au bout de plusieurs années, il s'enfonce. Donc c'est pour ça qu'il faut les sortir, les replanter. C'est deux fois la taille du bulbe.
Et donc ça, il faut le faire maintenant.
Il faut le faire maintenant.
Je vais essayer de les retrouver, mes bulbes.
Les bulbes de printemps, c'est maintenant qu'on le fait. Il y a les légumes perpétuels, on en a parlé, les roses de Noël. Il y a aussi, vous parliez tout à l'heure, des arbustes. Qu'est-ce qui peut fleurir en plein hiver et qui peut nous faire plaisir? Vous avez le sarcococca. Le sarcococca, c'est une plante qui fait des petites fleurs blanches et qui diffuse un parfum de dingue dans tout le jardin. On le sent à plus de 20 mètres autour de la maison. Donc, toutes ces plantes-là, il faut les planter à côté de la maison. Vous avez le cornouiller, le daphné, l'amamélis, qui sont aussi des plantes parfumées, le mahonia, le laurier-thym. Laurier-thym, ça sent un parfum un peu mielé et il est en fleur là actuellement, il fleurira tout l'hiver. Ça permet d'attirer certains butineurs qui tardent dans la saison à rentrer définitivement à la ruche. Et ça, c'est un très bel arbuste à utiliser. Puis après, il y a tous les arbustes à floraison printanière, le forsythia, le cognacier du Japon, tout ce qui va fleurir à partir du mois de février-mars.
Oui, ça arrivera très vite en plus. Est-ce qu'il faut les ramasser d'ailleurs, les feuilles d'arbres au sol? Parce que bon, on l'a dit, il y a des fleurs certes, mais il y a aussi des feuilles d'arbres partout. Les arbres perdent leurs feuilles, c'est comme ça. Je sais pas, moi je me dis parfois que ça peut faire une sorte de paillage, mais à la fois, j'ai l'impression que ça devient un peu bouilleux, vous voyez ce que je veux dire? J'ai peur que ça asphyxie le sol un peu.
Alors déjà, il faut le ramasser absolument sur les terrasses parce que c'est la première cause d'accident en automne.
Sûr.
On glisse sur la feuille. Deuxièmement, la feuille dans le gazon, il faut absolument la ramasser parce qu'elle fait jaunir artificiellement le gazon et c'est pas bon pour le développement des maladies. En revanche, toutes les feuilles, on peut les ramasser effectivement. On peut les mettre en paillage dans une haie d'arbustes ou dans son compost. Bref, on ramasse et on récupère.
Et Philippe, pour protéger certaines cultures du froid, on peut utiliser, je crois, des cônes de forçage. Ça s'achète où? Ça se bricole? C'est quoi l'intérêt et pour quelle culture?
Alors, le cône de forçage, c'est très utilisé au printemps, par exemple pour les tomates. Lorsqu'on les plante, on a peur un peu des nuits fraîches. On les met comme ça, ça permet de maintenir la température. Ça peut s'utiliser en automne et en hiver pour faire perdurer certaines cultures. Mais souvent, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le voile d'hivernage. C'est une sorte de voile blanc, plus ou moins, c'est de la fibre micro-tissée que l'on met autour de la plante. Ça permet de la protéger du froid tout en la laissant respirer et en laissant pénétrer la lumière.
Alors justement, on a parlé là pas des voiles de forçage, j'allais parler des bulbes justement qu'on peut planter à cette saison. On a parlé des jonquilles ou des tulipes, mais quand on parle de plantes comme ça qui vont repousser l'année suivante, on peut parler aussi des légumes dits perpétuels. Et pour cela, on accueille tout de suite Bernard Bureau. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes horticulteur à la retraite et ça fait 35-40 ans que vous vous en faites pousser, vous, des légumes perpétuels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, enfin surtout à Julia qui y connaît absolument rien, de quels légumes on parle quand on parle de légumes perpétuels?
Alors les légumes perpétuels, ce sont des légumes qui sont très anciens, qui sont un peu à l'origine des légumes actuels, modernes. Je parle du poireau par exemple, le poireau perpétuel, de l'oignon perpétuel, du chou perpétuel. Du topinambour, des choses comme ça qui sont les légumes de base et qui peuvent très facilement se cultiver dans un jardin, voire même pour certains sur des balcons ou dans des pots tout simplement quoi.
Mais c'est marrant parce que je crois qu'ils sont assez surprenants ces légumes. Je crois qu'on peut avoir des carottes blanches, violettes et même des betteraves jaunes. Ça donne quoi niveau goût?
Absolument. Moi, je vois que dans mon potager actuellement, je ramasse des carottes de toutes les couleurs, c'est vrai, des blanches, des oranges bien entendu, des rouges, des jaunes. Ça fait une multitude de saveurs différentes et puis c'est très joli au niveau aspect, quoi.
Et alors, pourquoi on les appelle perpétuels? C'est parce que la nature les a particulièrement gâtés, je crois, ces légumes. Ils sont plus résistants, moins malades, ils repoussent
alors,
systématiquement
Les légumes perpétuels sont très résistants, effectivement, parce que ce sont des légumes plus ou moins sauvages, si vous voulez. Ce sont les premiers légumes qui ont été cultivés, si on peut dire, parce qu'à l'état sauvage, ils existent encore. L'épinard perpétuel, par exemple, on le rencontre très fréquemment en montagne, à partir de 1000 mètres d'altitude, mais il pousse très bien en pleine, dans nos jardins. Donc ce sont des légumes qui sont très robustes, très résistants aux maladies, et puis qui se multiplient ou par eux-mêmes, c'est-à-dire par des bulbes ou par des racines, ou alors qui se ressèment tout seuls.
Bernard, je crois que vous avez une des plus grandes collections de légumes perpétuels de France près d'Angers. Est-ce qu'on peut venir dans votre potager en acheter sur place? C'est possible ça?
Ah ben, c'est tout à fait possible, oui. À la pépinière que dirige ma fille maintenant, c'est ouvert le matin et elle pratique également la vente par correspondance.
Bon, bah c'est parfait, on va passer commande. Merci beaucoup, merci Bernard. On peut y aller, effectivement, c'est pas très loin. Merci pour toutes ces explications. Je reviens vers vous, Philippe Collignon. Ça existe de la fleur perpétuelle en dehors des tulipes et des jonquilles dont on a a parlé. Est-ce qu'il y a des fleurs comme ça qui vont vraiment repousser d'une année sur l'autre?
Il y en a des millions.
Des millions, on les appelle
les vivaces. D'accord. Tout simplement, on les plante, on les sème et elles reviennent d'une année sur l'autre. Vous avez les annuelles qui ont un cycle de vie assez court, une année. Les bisannuelles, on les plante la première année, elles fleurissent la deuxième année. Et puis les vivaces, elles reviennent chaque année. Vous avez, par exemple, pour l'ombre, si vous voulez des plantes pour l'ombre, vous avez la campanule, l'anémone du Japon, les lébores. Pour le soleil mi-ombre, vous avez les rigerons qui ressemblent un peu à l'astère, le géranium vivace, super sympa, les œchères, le désespoir des peintres qu'on n'arrive jamais à peindre. Et puis pour le plein soleil, vous avez la gaillarde, vous avez la rudbeckia,
le
pavot.
Mais ça peut être 5 ans, 6 ans, enfin, ça va repousser combien d'années?
20 ans, 30 ans. D'accord. Après, on les divise, on les donne à son voisin, donc c'est super.
Et c'est économique en plus.
Ah ben, c'est très économique.
C'est génial ça. En hiver, ce qui peut être joli, mais enfin, j'imagine, ce sont les plantes grasses, parce qu'on m'a dit qu'elles ne bougeaient jamais, mais ça demande beaucoup de soins, ça.
Parce qu'elle peut se lancer, quoi. Elle avait un truc de feignasse.
Sur un balcon à Paris, c'est possible aujourd'hui d'avoir des plantes grasses. Vous pouvez avoir des opuntias, des sédums, des ferrocactus, des crassulas, des yucca. Ça, c'est bien en région parisienne. Après, lorsqu'on est dans des régions un peu plus froides, il faut éviter. Et surtout, d'avoir des plantes grasses à l'extérieur, quand on veut les avoir en pleine terre, il faut que le sol soit très sableux, très perméable. L'ennemi de la plante grasse, c'est pas tellement le froid, un peu quand même, mais c'est surtout l'hygrométrie, l'humidité au niveau des racines. Un hiver froid avec des racines qui sont prises au piège dans un sol argileux, oublié.
Pour les gens qui ont une pelouse, un gazon par exemple, en hiver, il y a moins de boulot, non? J'imagine qu'on va moins tondre, elle va pousser autant la pelouse. Ça souffre un gazon en hiver?
Ça pousse toujours légèrement. Je ne sais pas si vous avez déjà un gazon, ça pousse légèrement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est miser sur de la prairie fleurie. Moi, j'arrête pas de le dire.
Arrêtez le gazon, en fait, c'est ça.
Soyez fainéants, ne faites plus rien dans nos jardins. Laissez pousser votre gazon, vous tondez là, vous allez passer, vous faites votre petite terrasse, vous mettez des graines de fleurs vivace ou annuel ou bisannuel et ça vous fait une jolie prairie fleurie. Donc la prairie fleurie, quand on a des choses qui ont vraiment monté à graines, on peut la tondre et puis l'année suivante elle reviendra.
Je crois que c'est en octobre-novembre aussi qu'il va falloir tailler les haies, non?
On commence à tailler les haies. Alors il faut faire attention dans les haies, c'est-à-dire si c'est une haie fleurie, on taille toujours la haie après la floraison. Ça c'est la base. Printanière, c'est après la floraison de printemps. Estivale, c'est en automne. Si vous taillez une haie à floraison printanière maintenant, ben vous n'avez plus de fleurs au printemps. Donc attention, c'est toujours après la floraison. Et effectivement, pour des champêtres, on peut commencer, après la chute des feuilles, à commencer à tailler.
Et si on jardinait cet automne et même cet hiver, car il y a plein de choses à faire, même durant ces saisons-là, on vous apprend comment entretenir votre jardin ou votre balcon ce matin. Et on va vous expliquer dans un instant comment le faire tout en prenant soin de l'environnement. Et oui, on va jardiner zéro déchet sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver.
Jardin d'hiver d'Henri Salvador. Alors, il n'y a peut-être pas exactement la même liste de choses hein, dedans. Aujourd'hui, il y a plus de plantes. Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On prépare ensemble notre jardin d'hiver. Enfin, en tout cas, celui que nous conseille de faire, de prendre soin. C'est Philippe Collignon qui nous donne tous ses conseils ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste, professeur de botanique et l'auteur de ce livre, Je jardine zéro déchet, aux éditions Pour les nuls. Alors, pourquoi zéro déchet, justement? Ça pollue tant que ça, un jardinier amateur, franchement? Moi, je ne m'étais jamais posé cette question-là, en fait.
Ça a pollué jusqu'à la loi Labbé, donc avec les pesticides.
Ah oui, moi, j'en ai jamais utilisé, voilà, alors c'est
donc,
vrai que...
Les herbicides, etc. Voilà. Maintenant, ça pollue moins, mais il y a encore toujours, il y a 20% des jardiniers qui vont rapporter leurs déchets verts en déchetterie. Et ça coûte très cher à la collectivité.
Donc c'est déjà l'occasion de rappeler qu'en fait, on ne peut pas jeter les déchets du jardin dans la même poubelle que les déchets de la cuisine. Mais pourquoi on ne peut pas les brûler, sinon?
Il est interdit de brûler ses déchets verts, bruns, tout ce que vous voulez.
J'ai toujours vu des gens faire ça dans le sud.
Alors oui,
je citerai personne,
non.
Mais
si vous allez sur le site sur le site du ministère, c'est interdit, sauf s'il y a des dérogations données par la préfecture ou la mairie. Lorsqu'il n'y a pas de déchetterie, parfois on vous accorde le droit de brûler, mais pas à n'importe quelle saison, pas n'importe quel jour et pas à n'importe quelle heure.
Sauf si on a envie d'avoir une visite des pompiers aussi, je crois.
Ça peut être bien vers le 13 juillet, 14.
C'est ça. Bon, donc l'idée, c'est de les recycler, ces déchets verts. Mais quels sont les avantages à faire ça, en fait?
Alors, moins d'aller-retour en déchetterie. Donc déjà, on économise de l'essence pour y aller.
Ça, c'est pas négligeable.
Voilà. Deuxième, on fait des économies sur les engrais parce qu'on transforme nos déchets verts, nos déchets bruns eh bien en engrais. On met moins d'eau dans son jardin parce qu'on les transforme en paillage, ces déchets. Et puis, on a moins de gaz à effet de serre, évidemment, et c'est donc bon pour la planète.
Vous dites dans votre livre que l'erreur, quand on se lance dans le jardinage zéro déchet, que le premier écueil, c'est que les gens font tout en grand. Il vaut mieux démarrer petit, vraiment ?
Toujours. Démarrons petit, on est sûr, voilà, pas après pas, barreau d'échelle après barreau d'échelle, d'atteindre la lune et le Graal, et surtout au jardin, c'est le cas. Commencez par un potager de 20-30 mètres carrés, puis après 50, 100 si vous voulez, parce que plus c'est grand, plus c'est difficile. Petit, c'est difficile aussi, mais grand, après, il va falloir gérer et organiser son potager. Ça, c'est la première chose. Et puis, j'arrête pas de dire, soyez fainéants. Un peu comme j'applique la pratique de Marie Kondo, vous en avez déjà parlé
Julia,
dans votre émission.
Julia, la connaît bien, ma prêtresse.
Moi, je l'adore aussi. Hein, donc, se départir de tout ce qui nous est inutile et ce qui nous provoque aucune émotion, c'est pareil dans le jardin. Il faut être pragmatique. Supprimer les plantes qui vous donnent trop de travail, les plantes un petit peu exotiques, misez sur du local, misez sur de la plante locale. Si vous ne les connaissez pas, demandez aux voisins ou à vos anciens de dire qu'est-ce qui pousse bien, sans problème. Donc, soyez fainéants. Mmh. À la méthode Marie Kondo, on a libéré le jardin de toute contrainte.
Oui, il y a une grande règle du zéro déchet au jardin, c'est déjà de réduire le gaspillage d'eau. Comment on fait ?
Déjà, on mise sur des plantes dromadaires, des plantes qui boivent moins d'eau. Donc, c'est-à-dire les graminées, par exemple. Voilà, c'est très joli, ça donne un petit côté sauvage et exubérant. C'est beau à l'automne, c'est beau au printemps. C'est beau aussi lorsque la plante se couvre de givre. Donc ça, c'est la base. Puis, mettez du paillage, on n'arrête pas de le dire. Le paillage économise l'eau. Le paillage, ce n'est pas sur 1 cm, c'est juste 4, 5, 6 cm d'épaisseur. Mmh. Et puis, misez aujourd'hui sur l'arrosage au goutte à goutte. C'est vrai que c'est un peu contraignant à mettre en place, mais comme ça, vous gérez l'eau par les plantes.
Moi, j'ai un petit jardin, un petit potager, mais je ne sais jamais d'ailleurs, en plus ça dépend un peu des plantes et tout ça, je ne sais jamais quand il est bon d'arroser. Je suis un peu au feeling, je vois que la terre est un peu sèche, j'arrose, ou si les plantes font un peu grise mine. Mais c'est quand même, comment on sait ? Est-ce que je mets le doigt dedans ? Comment savoir ?
Mélanie, c'est exactement ça, c'est-à-dire vous observez et avec le temps, vous arrivez à appréhender si la plante a soif ou pas. Vous pouvez mettre des zoyas, vous savez, ces petites poterie en terre cuite enterrée qui vont diffuser lentement l'eau dans le sol. On peut mettre aussi une plante test. Vous plantez une impatience. Ouais. L'impatience, c'est elle qui va baisser les feuilles la première lorsqu'elle a soif. Donc vous mettez l'impatience.
Elle est le thermomètre d'eau
du jardin. Dès qu'elle commence à baisser ses petites feuilles, boum, on déclenche l'arrosage. Ça, c'est très pratique lorsqu'on a un balcon pour savoir s'il faut arroser ou pas.
Comment ça s'appelle ? Rappelez-le.
L'impatience. L'impatience de Nouvelle-Guinée. C'est une plante qui est très jolie, qui a un feuillage plutôt pourpre ou vert et qui fait plein de fleurs tout l'été.
En plus.
Bon, elle est gélive, attention.
Alors, bien sûr, pour réduire nos déchets verts et de cuisine, il y a le compostage. Mais j'ai l'impression que, passé la nouveauté, beaucoup de gens lâchent l'affaire très vite. J'ai un tas de copains qui ont un énorme composteur vide au fond du jardin.
Vide et cassé, souvent.
Exactement. Ouais, c'est compliqué.
Et offert par la mairie, souvent.
Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi les gens s'y lancent et puis finalement ils lâchent l'affaire?
En fait, il y a deux types de compostage. Vous avez le compostage à chaud, puis le compostage à froid. On va parler du froid parce que c'est le plus simple à faire. En fait, pour réussir son compost, il faut avoir trois bacs. Je sais, il faut avoir trois bacs d'un mètre cube. Le bac 1, le bac 2, le bac 3. Dans le bac 1, vous mettez vos déchets végétaux, vos déchets verts, etc. Vous laissez 6 mois, vous remuez un petit peu. Et ensuite, ce que vous avez produit dans le bac 1, vous allez le mettre dans le bac 2 et là, vous ne touchez plus. D'accord. Pendant 6 mois, vous ne touchez plus. Les micro-organismes, les vers de terre vont faire leur œuvre. Et ensuite, vous le mettez dans le bac 3. Vous laissez encore 4 à 6 mois et là, vous pouvez l'utiliser. Ces opérations où on va transvaser de bac à bac, ça va permettre d'aérer le compost et vous allez avoir quelque chose qui est bon pour le jardin et qui ne sent pas trop mauvais.
Donc, j'ai que des amis qui sont arrêtés au bac 1, en fait, parce qu'il est vide et qu'il ne s'est rien passé derrière.
Non, il faut avoir une fois 3 années, un bac plus 3.
C'est ça, exactement. Bon, qu'est-ce qu'on peut mettre, justement, dans le... Parce que là-dessus, il y a eu des débats, moi, justement, avec mes amis qui ont des composteurs, je veux dire. Qu'est-ce qu'on peut mettre des déchets de la cuisine ? Est-ce qu'on peut mettre des coquilles d'œufs ? Est-ce qu'on peut pas ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre aussi dans un... Moi, on m'a dit, on ne met pas de banane dans un composteur.
Ah ouais ?
C'est pas faux, parce que la peau de banane se désagrège très lentement. En revanche, la peau de banane, vous pouvez la mettre au fond d'un trou. Lorsque vous plantez un rosier, parce qu'elle est riche en potasse, et ça c'est extraordinaire.
Petite astuce.
Voilà.
D'accord.
Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un composteur ? On peut mettre des déchets verts, évidemment, de cuisine, des fleurs coupées, on vous offre un bouquet.
On peut mettre des poils de chat, des cheveux aussi.
On peut mettre des poils de chat, de cheveux. Attention à la litière, il y a un petit bémol quand même. Et puis dans les déchets bruns, on peut mettre des boîtes à œufs, du carton, sans encre. Justement, ça va aérer le compost, du branchage, évidemment des petites branches, du marc de café, des feuilles mortes, des copeaux, du foin, de la paille.
Et dis-moi Philippe, alors qu'est-ce qu'on peut vraiment pas mettre à part les bananes dans le compost ?
Bah, alors, les agrumes, c'est à déconseiller parce que c'est très acide et ça acidifie un peu le compost. Et puis surtout, il y a beaucoup de gens qui mettent leur litière pour chat dans le compost. Alors ça marche pas mal, sauf les litières pour chat à base de silice et de sels minéraux. Il faut prendre des litières pour chat végétales.
Allez, pour terminer, il y a un chapitre que vous intitulez, vous en avez un tout petit peu parlé juste avant, mais vous intitulez ça « Multiplier ses propres plantes », donc pour avoir un jardin luxuriant. Donc ça veut dire que pas besoin d'aller se ruiner dans une jardinerie. C'est quoi la multiplication des plantes magiques comme ça?
C'est vraiment les hortensias.
Le bouturage, c'est ça par exemple.
C'est le bouturage, on les achète très cher, les plantes d'hortensias, ça se bouture maintenant fin août, septembre, octobre. On prend un morceau de bois, on coupe la feuille en deux, parce qu'il y a moins de transpiration, donc les racines vont apparaître plus facilement. On la plante dans la terre ou dans un verre d'eau entouré d'un papier d'alu. Le verre d'eau, pourquoi? Parce que les racines apparaissent dans une ambiance plutôt obscure, plutôt sans lumière. Et vous pouvez bouturer ce que vous voulez.
Donc si je vois des jolis trucs sur le balcon de Julia, par exemple, je peux aller lui piquer des bouts de plantes.
Venez bouturer à la maison, c'est la Nigomez.
Mais la bouture, c'est vraiment essentiel. Et vous avez la même qualité que la plante originelle, la plante maman que vous avez.
Je pense que je m'en occuperai mieux qu'elle. Alors la bouture
ira mieux.
Merci beaucoup, Philippe Collignon, d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin. Je crois qu'on a amassé, grâce à vous, des tas de conseils nécessaires pour avoir le plus joli des jardins ou le balcon le plus stylé de l'hiver. Et en plus, il sera écolo. Merci encore et bonne continuation, Julia. Je crois que nos bienfaiteurs attendent à la porte.
Mais oui, ils arrivent dans quelques instants, Mélanie. D'abord, Gavin's Clément Ruiz va nous initier à l'œnotourisme. Ça vous dit?
Oui.
Il a déniché pour nous des idées insolites, culturelles ou même sportives à faire à travers les vignes. Et puis avec Perla Servan-Schreiber, il va y avoir, comme tous les vendredis, de la joie au menu, mais aussi de la joie et un velouté de brocoli à la pomme Granny Smith. C'est pas compliqué à faire, nous a dit Perla. Que du bon à venir. Alors à tout de suite sur Europe 1.